France Inter.
Et c'est le 13-14 avec Kevin Dufraîche.
Bonne journée Nicolas, à demain et bonjour à tous. Connexion impossible, les services en ligne de plusieurs banques paralysés ce matin. Le suivi de courrier de la Poste, également des millions de clients concernés, une potentielle cyberattaque en cause. Et toutes les explications dès le début de ce journal. L'explosion d'une voiture en banlieue de Moscou ce matin. Un gradé de l'armée russe est mort quand la Russie pointe déjà les services ukrainiens. Une enseigne qui va créer de l'emploi en France. Bonjour Luc Chemla.
Bonjour.
À peine racheté par un groupe américain, Grand Frais promet de recruter en masse.
Oui, entre 3000 et 3500 embauches prévues dès l'année prochaine. L'enseigne spécialisée dans les fruits et légumes va donc passer sous pavillon américain et accélère encore un peu plus son développement, qui passe notamment par des ouvertures de magasins. On vous donnera évidemment le chiffre.
Nous verrons pourquoi certaines races de bovins vont être vaccinées en priorité contre la dermatose dans le sud-ouest. Le témoignage d'un père à suivre aussi. Il a aidé la police à appréhender un pédocriminel qui s'en était pris à sa fille. Et nous serons en Italie, à Greccio, la ville où sont nées les crèches vivantes il y a 800 ans. À partir de 13h30, contrairement à la grippe que tout le monde espère éviter à quelques jours de Noël, elle n'est pas contagieuse et pourtant, l'épidémie de myopie est mondiale. Un tiers des Français sont concernés. D'où ça vient? Quelles innovations pour lutter? Trois invités pour répondre à vos questions, 01 45 24 7000. Un micro d'or pour un ballon d'or. Emma Sarango nous emmène sur les traces d'Ousmane Dembélé. Série de reportages primés sur le parcours du joueur du PSG. Tout a commencé à Évreux, notamment avec Moustapha, un de ses amis d'enfance.
Il se trimballait systématiquement avec son ballon de foot, à dribbler les arbres, à dribbler les bancs, à dribbler tout ce qu'il pouvait. La spéciale Dembouze, il l'avait déjà depuis tout petit.
Reportage complet à 13h45 et puis juste avant 14h, des artistes choisissent Charles Aznavour. Toute la semaine, au micro de Frédéric Pommier, Dany Briand ouvre le bal. Voilà le 13-14 de France Inter, c'est parti, soyez les bienvenus.
France Inter.
Ouvrir son application bancaire sur son téléphone pour consulter ses comptes, tout le monde ou presque fait ce petit geste pour certains. C'est quotidien, ça permet de se tenir à jour, de savoir où on en est, de faire des virements. En pleine période de Noël, c'est plutôt utile, sauf que, bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
Sauf que pour les clients de la Banque Postale, la Caisse d'Épargne ou la Banque Populaire, depuis ce matin, c'est impossible. Service indisponible. Qu'est-ce qui se passe, Maxime?
Pour ce qui est de la Poste, on nous parle d'un déni de service, voire plus probablement d'une cyberattaque affectant tout à la fois, notamment le suivi des colis, ce qui tombe assez mal, vous en conviendrez, à quelques jours de Noël, ainsi que la consultation des comptes bancaires pour des milliers de clients. Alors, pas de panique non plus, l'idée n'est pas de faire peur. Pour ce qui est des colis d'abord, même si vous ne réussissez pas à localiser le paquet que vous attendez sans doute avec impatience pour le 24, le service est assuré, nous affirme la Poste. Et puis, pour les comptes bancaires, l'objectif de l'attaque, entre guillemets, ne serait pas de subtiliser vos données, a priori, mais plutôt de déstabiliser les services. Sachant que plusieurs d'entre eux continuent de fonctionner normalement, ça marche pour les virements par téléphone type Ouéro, par exemple. À la Poste, les équipes sont à bloc, nous dit un porte-parole, pour rétablir les différentes fonctions au plus vite. On imagine le même branle-bas de combat à la Caisse d'Épargne et à la Banque Populaire.
Merci Max. Maxime Debs pour ses premiers éléments d'explication. Potentielle cyberattaque, dit donc la Banque Postale, qui a déjà été indisponible durant plus de 4 heures. C'était samedi. Une voiture qui explose près de Moscou avec à bord un gradé de l'armée russe. C'est tout de suite la piste ukrainienne selon Moscou. Ça a tout d'un film ou d'un roman d'espionnage. C'est en aucun cas de la fiction. Ça fait partie de la réalité de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Comme en avril dernier, un général de l'état-major russe qui a été tué dans l'explosion d'un véhicule ce matin. Nous y reviendrons dans quelques instants avec notre correspondant à Moscou, Sylvain Tronchet. La Russie qui a frappé une nouvelle fois la région d'Odessa ce matin, zone portuaire de la mer Noire. Les infrastructures maritimes et énergétiques ont été visées. 120 000 foyers privés d'électricité dans la région, ce qui veut dire pas de chauffage alors que l'hiver s'installe. En Australie, la police confirme le profil djihadiste des assaillants de Bondi Beach, lieu de l'attentat antisémite qui a fait 15 morts en pleine fête juive de Hanouka à Sydney. C'était dimanche dernier. Les enquêteurs ont fait état ce matin de l'existence d'une vidéo sur laquelle On voit le père et son fils responsables de la fusillade assis devant un drapeau du groupe État islamique, récitant un passage du Coran. La police australienne indique également que les deux hommes se sont entraînés au tir dans les jours précédant l'attentat. Quant au Proche-Orient, des frappes israéliennes ont fait plusieurs morts en fin de semaine dernière, malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis 2 mois et demi. 5 victimes recensées par la défense civile de Gaza sous l'autorité du Hamas. L'enclave palestinienne dans laquelle s'est rendu ce week-end le cardinal Pizzaballa, le patriarche latin de Jérusalem, a célébré hier une messe de Noël pour la poignée de fidèles catholiques et plus largement chrétiens qui vivent dans ce territoire. Office dans l'église de la Sainte Famille, la seule paroisse catholique de Gaza. Sur place, Rami Al-Maghari avec Alice Froussard à Jérusalem.
C'était un Noël célébré en avance dans une toute petite église décorée par les paroissiens. Il y avait des prières et un invité de taille, le patriarche latin de Jérusalem. Esther Al-Najjar, une jeune Gazaouie de 13 ans, avait les yeux encore brillants.
C'était un des dimanches les plus doux que j'ai connus. On était super heureux. Surtout, on a décoré le sapin tous ensemble et décoré l'église. Et on est tous réunis.
Des enfants ont reconstitué la crèche de la Nativité avec un bébé né cette année, baptisé pour l'occasion. Mais au fond, rien n'a vraiment la même saveur. Malgré les apparats de fête, la joie, l'ambiance de Noël, c'est une célébration difficile, avoue Dimitri Boulos, un autre chrétien.
Par le passé, nous allions même à Bethléem ou à Jérusalem, au moins chaque année. On y allait pour célébrer Noël. On pouvait aussi parfois aller à Jérusalem, mais là, Israël nous l'empêche. Avant la guerre, il n'autorisait que certaines personnes au compte-gouttes. Et depuis 2 ans, nous ne pouvons plus sortir de la bande de Gaza.
Hors de l'église, des Palestiniens qui ne sont pas chrétiens tenaient à soutenir leurs voisins. Ils étaient venus les saluer dans leur célébration. Difficile de s'échapper totalement de la réalité. Pourtant, soupire Hazem Al-Jelda, il a 9 ans.
Noël, c'est beau, mais la guerre ne l'est pas. Elle a tout changé. Avant, nous étions heureux chez nous et on a dû évacuer notre maison car elle allait être bombardée. Et depuis, on vit ici, déplacé dans l'église.
Tous ne rêvent que d'une chose, pouvoir reprendre une vie normale, celle d'avant, à Gaza.
Alice Froussard à Jérusalem pour France Inter. Et on revient donc à la mort ce matin de ce général de l'état-major russe tué dans l'explosion d'un véhicule au sud de Moscou. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Kevin.
Vous êtes notre correspondant en Russie. Que sait-on de la mort de ce gradé russe ?
Il y a les images qui ont été diffusées par les autorités russes qui montrent une voiture dont l'habitacle a été totalement détruit, particulièrement au niveau de la place conducteur, dont le siège a été arraché, comme si la bombe avait été placée à l'avant du véhicule. Donc quand le général Fanil Sarvarov partait de chez lui, tôt ce matin, il quittait le parking de sa résidence dans le sud de Moscou, où habitent d'autres officiers de haut rang. Et sa voiture a donc explosé. Très vite, le comité d'enquête, qui est le principal organe d'enquête russe, répondant directement au Kremlin, a confirmé l'identité de la victime. Il était le chef du département de la formation opérationnelle au sein de l'état-major russe. Les autorités ont également évoqué la possibilité que cet attentat soit l'œuvre des services ukrainiens. 2 autres généraux ont déjà été tués dans des assassinats ciblés à Moscou il y a 1 an. Notamment, on se souvient que le général Igor Kirillov, qui était le chef des forces de défense radiologique, chimique et biologique, était mort dans l'explosion d'une trottinette placée devant l'entrée de son immeuble. Si cet attentat ce matin était revendiqué par Kiev, cela confirmerait la capacité des services ukrainiens à agir en profondeur sur le territoire russe, des services qui viennent d'ailleurs notamment de revendiquer, vidéo à l'appui, la destruction par un commando de 2 avions de chasse ce week-end sur l'aéroport de Lipetsk, à 350 km de la frontière ukrainienne.
Sylvain Tronchet, correspondant de France Inter en Russie. C'est l'une des enseignes préférées des Français, présente dans presque toutes les zones commerciales, en périphérie des villes. Grand Frais, spécialiste des fruits et légumes. La semaine dernière, on apprenait qu'elle passait sous pavillon américain avec ses 450 magasins en France. La maison mère de Grand Frais, Prosol, est désormais détenue majoritairement par le groupe Apollo. Et nos confrères de France Info ont révélé ce matin que Prosol compte bien se développer et embaucher massivement. Luc Chemla, vous êtes de retour dans ce studio. Ce rachat faisait craindre des conséquences sur l'emploi. Finalement, la direction promet plus de 3000 embauches.
Oui, voire même 3500, et cela dès l'an prochain, soit une augmentation de près d'un tiers de la masse salariale actuelle. Voilà donc une nouvelle étape dans la montée en puissance d'un groupe en pleine expansion. Avec un chiffre d'affaires en hausse de 8% par an, Grand Frais est l'une des enseignes les plus rentables meubles au mètre carré. Alors qu'elle ouvre en moyenne une quinzaine de magasins tous les ans, elle espère passer à 25 inaugurations dès l'année prochaine au cœur des centres-villes. Le rachat par le gestionnaire d'actifs américain Apollo lui donne d'une certaine façon les moyens de ses ambitions, qui est donc de gagner du terrain. D'ailleurs, Grandfray a annoncé cet automne acquérir une trentaine de magasins Jiffy, l'enseigne spécialisée dans les articles pour la maison à petit prix, et elle en difficulté financière et cherche des liquidités. C'est ainsi l'occasion d'acheter des boutiques de grande taille situées en périphérie dans, je cite, des zones commerciales denses. Après être passé sous pavillon américain pour une valeur de plus de 4 milliards d'euros, il faut absolument de la croissance, note un observateur du secteur, qui ajoute que la grande distribution, il y a quelques années, a ouvert la porte à un grand frais qui s'est engouffré dans la brèche pour les fruits et légumes et fait désormais jeu égal avec plusieurs grandes enseignes.
Luc Chemla, c'est devenu une marque de fabrique depuis le début de son mandat à Matignon. Il y a 3 mois, Sébastien Lecornu consulte les différentes forces politiques dans les moments clés. Moments clés, nous y sommes, hein, puisque le Parlement n'a pas réussi à voter un projet de loi de finances, un budget pour l'État en 2026. Alors après les représentants du Bloc central, hier, le Premier ministre a reçu ce matin les socialistes qui viennent de sortir de Matignon. Cet après-midi, communistes, écologistes et représentants, les Républicains sont attendus. Le gouvernement veut un budget fin janvier. En attendant, il faut adopter une loi spéciale pour garantir le fonctionnement de l'État. Bonjour Jérôme Val.
Bonjour.
La loi spéciale, tout le monde ne met pas la même chose derrière ce terme. Et tout l'enjeu de ces rendez-vous menés par le Premier ministre, c'est justement de définir les contours de cette loi spéciale.
En effet, quel périmètre pour un texte qui, par essence, assure le service minimum, hein, percevoir les impôts et payer les fonctionnaires, en attendant un budget en bonne et due forme. Alors, chez les socialistes qui ont en effet été reçus par le Premier ministre, on espère ne pas revivre l'expérience de l'an passé. Avant son départ, le Premier ministre de l'époque, Michel Barnier, avait publié le 12 décembre 2024 une circulaire très restrictive pour une loi spéciale austère, avec un principe de prudence et de parcimonie selon ce document. Il faut donc être plus ambitieux, c'est ce que le PS a dit et redira ce soir au ministre de l'économie et des comptes publics qui seront auditionnés à l'Assemblée, son premier secrétaire Olivier Faure, il y a quelques minutes à la sortie de Matignon.
Le problème de la loi spéciale, c'est qu'elle est une loi de jonction entre un budget et un autre, mais que ce n'est pas une loi qui permet de vivre dans la durée. Et donc, nous avons bien conscience du fait que chacun doit prendre ses responsabilités. Et
la France insoumise, elle aussi, dénonce par anticipation un texte qui serait trop limité. Un chantage pour faire passer la pilule d'un budget au forceps dès le mois de janvier, s'agace Éric Coquerel. C'est le président LFI de la Commission des Finances à l'Assemblée. Sauf que le gouvernement le répète à l'envi, une loi spéciale n'est qu'un sparadrap ou une rustine, vous pouvez choisir l'image, et donc, par définition, qui ne satisfait personne.
Jérôme Val, service politique de France Inter, conseil des ministres ce soir à 19h30 après le retour d'Emmanuel Macron qui visitait avant Noël les forces armées aux Émirats Arabes Unis. Loi spéciale ou pas, de nombreux secteurs voient leur crédit pour l'an prochain baisser. C'est le cas des associations. Le pass culture, un des marqueurs des mandats d'Emmanuel Macron, est aussi raboté. Le PLF prévoit en tout cas 10 millions d'euros en moins sur un peu plus de 70 millions de budget. Bonjour Fanny Imbert.
Bonjour.
Et voilà qui inquiète fortement le monde du théâtre qui accueille beaucoup de jeunes, hein, des collégiens, des lycéens dans le cadre de ce dispositif Pass Culture.
Et oui, le théâtre, c'est vraiment la principale sortie culturelle que les professeurs choisissent de financer grâce à la part collective du Pass Culture, devant le cinéma ou les musées. Donc si la baisse de dotation est confirmée, on estime que c'est 1 million d'élèves qui n'iront pas au théâtre l'année prochaine. Alors forcément, ça inquiète Joris Mathieu, il est coprésident du Syndéac, le premier syndicat du secteur public.
Il y a 2 impacts majeurs à ces risques de baisse de budgétaire. Une perte financière pour les structures et pour les artistes dans leur emploi. Mais je dirais qu'il faut surtout mesurer l'impact sociétal. Ces coupes drastiques seraient dramatiques pour l'éducation et l'éveil critique de la jeunesse.
Alors le Pass Culture avait pris sa place dans les établissements depuis sa création en 2021. Mais en février dernier, son budget avait dû être gelé au vu du nombre important de demandes. Ça avait entraîné des annulations de sorties, des spectacles déprogrammés. Les scènes nationales ont vu un quart de leur billetterie scolaire disparaître entre septembre et décembre 2025, estime le Syndéac. Alors aujourd'hui, la question qui reste en suspens, c'est comment ce nouveau budget va-t-il être réparti par établissement ? Parce que jusqu'à maintenant, on fonctionnait sur la base d'un forfait forfait alloué à chaque élève, 25 euros par élève au collège, 30 euros au lycée. Sans ce forfait, les syndicats ont peur que ce soit la politique du premier arrivé, premier servi qui s'applique.
Fanny Humbert, il ne reste que quelques points de blocage. Dans le sud-ouest, les agriculteurs mobilisés contre l'abattage total des troupeaux de bovins en cas de dermatose nodulaire contagieuse ont majoritairement levé le camp ce week-end. Une nouvelle réunion se tient aujourd'hui à Toulouse entre scientifiques et syndicats agricoles. La coordination rurale et la confédération paysanne réclament toujours à ce que seuls les animaux malades soient euthanasiés. Ce n'est pas suffisant pour arrêter la propagation du virus, répondent les vétérinaires. Les agriculteurs qui veulent aussi la massification de la vaccination et pour lutter contre la maladie, certaines races du sud-ouest vont être prioritaires pour le vaccin. Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, l'a annoncé hier. Ce qu'on appelle les races à petits effectifs, comme les béarnaises, les lourdaises ou encore les mirandaises. Bonjour Barbara Dufour.
Bonjour.
Vous êtes professeure émérite à l'École nationale vétérinaire d'Alfort. Ce sont des races en fait qui comptent très peu d'animaux, hein, d'où une inquiétude particulière.
Oui, tout à fait. Les races à faible effectif, habituellement, c'est moins de 10 000 femelles. Mais les races que vous avez citées, mirandaises, camarguaises, bordelaises, c'est quelques centaines d'élevages, 50, 100 élevages au maximum, et pour certaines, moins de 500 animaux encore existants sur le territoire. Donc, il est clair que si on veut les protéger efficacement contre ce virus, qui, lui, ne fait pas beaucoup de distinction entre les animaux, il est nécessaire de vacciner ces vaches en priorité, évidemment.
Est-ce qu'on peut dire que ce sont des animaux, j'allais dire, d'exception au sein du cheptel français ? La ministre estime qu'elle pourrait, je cite, tout simplement disparaître de notre patrimoine. Elle utilise le mot de patrimoine. Ils sont exceptionnels, ces animaux, en quelque sorte.
Ah oui, tout à fait. Ce sont des races rustiques, je vous dis, en très faible nombre. Je l'ai cité, par exemple, la béarnaise, actuellement, il y a 500 animaux présents, quoi. 500 vaches, un peu plus d'animaux, mais 500 vaches reproductrices. Donc, la lourdaise, c'est 250 vaches reproductrices. Donc, si ces animaux-là si on devait abattre ces animaux-là, ça pose un vrai problème en termes de diversité génétique pour reconstituer la race, en termes de consanguinité aussi. Ce sont des vaches qui appartiennent à notre patrimoine depuis très longtemps. Mmh. Elles sont très adaptées aux régions de montagne, aux régions humides aussi pour certaines d'entre elles, où elles ont un profil particulier. Par exemple, les races camarguaises, ce sont des races semi-sauvages. On n'a pas d'autre en France que cette race-là pour tout ce qui est jeux, courses d'animaux, etc. Donc, ce sont des races qui ont un profil très particulier et très dommageable pour la France de perdre cette diversité, cette biodiversité, en quelque sorte.
Est-ce qu'on peut considérer, Barbara Dufour, que comme il y a assez peu d'animaux, ces vaccinations vont pouvoir intervenir finalement très vite par rapport aux autres troupeaux ?
Je l'espère, absolument. Moi, je ne suis pas sur le terrain. Je suis persuadée que les vétérinaires et les éleveurs qui possèdent ces races, souvent, ils sont très attachés à leurs animaux. Ils sont, de manière générale, les éleveurs sont attachés à leurs animaux, mais ceux-là sont particulièrement attachés à ces animaux qu'ils savent rares et particuliers. Et donc, j'imagine que tout le monde sur le terrain va se mobiliser de manière particulièrement rapide et encore plus rapide pour ces animaux-là. Il faut préserver.
Merci Barbara Dufour. Je rappelle que vous êtes professeure émérite à l'École nationale vétérinaire d'Alfort. Merci d'avoir été avec nous malgré cette liaison parfois un peu difficile. Plus que 5 départements en vigilance orange en raison des intempéries dans le sud de la France. L'Aveyron, l'Hérault, la Lozère, le Tarn et le Var sont en vigilance orange pour crue. Le Var est aussi concerné par une vigilance pluie-inondation, neige, verglas pour l'Aveyron et le Tarn. De fortes crues sont en cours selon Météo France sur plusieurs cours d'eau de la région Occitanie. La météo complète, ce sera à la fin de ce journal. Et voilà le
France Inter, le 13-14. Kevin Dufraîche.
Voilà le témoignage d'un père à présent, un homme qui a aidé la police à appréhender un pédocriminel après la tentative de suicide de sa fille de 12 ans. En avril dernier, Georges Bilello découvre qu'elle échangeait avec un homme de 36 ans, des messages, des photos intimes aussi. Il porte plainte, mais il décide alors également d'enquêter lui-même. Et Sébastien Riglet, d'ici Azur, l'a rencontré.
Tout commence lorsque Georges découvre que sa fille de 12 ans échange sur Snapchat avec un homme de 36 ans.
Quand j'ai vu ça, j'étais au commissariat direct. L'audition a duré quand même un certain temps. Le lendemain, Et c'est passé ce que ma fille a fait, en fait.
Nous sommes le 17 avril 2025, une date que ce père n'oubliera jamais.
J'étais dans le salon et j'entendais du bruit. Ça s'est arrêté, puis je réentends du bruit. À un moment, je dis, ça, c'est pas un bruit qui est normal. Je demande à mon fils d'aller voir ce qui se passe. Et au moment où il est rentré dans la chambre, il a vu qu'elle s'était pendue. J'ai appelé la police et les pompiers et je l'ai réanimé. C'est pas passé loin, ça s'est joué à quelques minutes. Hein.
La jeune fille survit, mais pour le père, le temps presse. Il estime que la justice n'avance pas assez vite, alors il décide de mener lui-même l'enquête.
Il m'a fallu à peu près 4 mois. J'avais pris le téléphone de ma fille, en fait. Je me faisais passer pour elle. Et du coup, cet abruti, et je peux le dire haut et fort, il a activé, je pense par erreur, sa géolocalisation. J'ai superposé sa position avec la carte Mappy pour avoir l'adresse exacte. Quand j'avais tous les éléments, j'ai tout donné au commissariat.
L'individu domicilié en Isère comparaîtra devant le tribunal judiciaire de Vienne en mars prochain. Désormais, Léa va mieux, mais Georges reste vigilant. Il surveille tous les faits et gestes de sa fille. Tous les deux espèrent que la justice fera son travail en mars prochain.
Sébastien Aiglet, ici Azur. À Grenoble, la police a ouvert le feu ce matin en centre-ville pour arrêter un homme armé d'un couteau. L'individu est blessé, mais son pronostic vital n'est pas engagé. D'après les premiers éléments, cet homme s'est présenté dans une auto-école lors de l'arrivée de la police. Il a pris la fuite avant de se retourner vers un policier et de se jeter sur lui. C'est là que le fonctionnaire a fait usage de son arme à 2 reprises. C'est un confetti dans l'océan Indien. L'île de Pari en Indonésie, destination touristique accessible en bateau depuis Jakarta. 4 habitants ont déposé plainte il y a 2 ans contre Holcim, anciennement Lafarge Holcim. Le groupe suisse a fusionné avec le cimentier français il y a 10 ans avant de faire disparaître son nom en 2021. Plainte pour réclamer des dommages et intérêts parce qu'il considère que la multinationale grande émettrice de gaz à effet de serre est en partie responsable du changement climatique alors que leur île est menacée par la montée des eaux. Eh bien, un tribunal accepte aujourd'hui d'examiner le litige. S'il existe beaucoup de cas similaires dans le monde, c'est une première en Suisse. Jérémy Lanche est à Genève.
Dans un jugement très détaillé, le tribunal du canton de Zug, où Holcim a son siège social, ce tribunal a validé l'essentiel de la plainte déposée par 4 habitants de l'île de Pari, minuscule confetti de 42 hectares au large de Jakarta. Holcim n'y a aucune activité, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas responsable de la montée des eaux, explique Sébastien Duyck, juriste au Centre international pour le droit de l'environnement.
Là, on a une victime qui est caractérisée. Et puis de l'autre côté, on a une compagnie responsable quand même pour une part assez importante des émissions mondiales. Là, on parle de 0,42%, je crois. Ça n'a pas l'air d'être beaucoup comme ça comme chiffre, mais c'est à nouveau 2 fois les émissions cumulées de la Suisse.
Holcim, de son côté, estimait qu'elle s'est déjà engagée vers la décarbonation de son activité et que ce n'est pas un tribunal de définir les limites d'émissions de gaz à effet de serre, argument balayé par la justice suisse.
En fait, ce que les pollueurs ont demandé depuis des années, c'est une certaine forme d'impunité en matière de changement climatique. Et c'est ce que le tribunal là a refusé en disant non, on ne peut pas rejeter une affaire comme ça juste parce qu'il s'agit de changement climatique.
La décision pourrait faire jurisprudence et donner des idées à d'autres plaignants partout dans le monde. L'entreprise Holcim, elle, a déjà dit qu'elle allait faire appel. À Genève, Jérémy Lange, RFI pour France Inter.
Nous sommes le 22 décembre, 2 jours avant le réveillon. Certains sont toujours en train de faire la course aux cadeaux en se disant, comme d'habitude, que l'année prochaine, ils s'y prendront plus tôt. Et puis, il y a ceux en train de tout préparer pour recevoir la famille, décorations comprises. Ça se fera peut-être bientôt sans neige artificielle, parce que ça fait joli dans le sapin ou sur la table. Mais elles sont faites de plastique et génèrent ainsi des microplastiques polluants que l'on retrouve dans les sols, les océans, les rivières. Alors le député MoDem du Maine-et-Loire, Philippe Bolo, vient de déposer une proposition de loi pour interdire ces neiges artificielles en France, Louise Billens.
Cette neige artificielle sous forme de poudre ou de flocons, parfois scintillants, contient des microplastiques qui s'accumulent partout, dans l'eau, le sol, l'air et notre organisme. Marine Bonavita est chargée de plaidoyer pour l'association Zero Waste.
Il y a de grandes chances, vu que c'est des tout petites particules, que ça s'échappe dans l'environnement. Donc si en plus les gens le mettent directement dehors, là c'est catastrophique. Et même si au final ils finissent par le ramasser et le mettre dans la poubelle, ça sera incinéré. Donc ça a des répercussions sur notre santé et en plus de ça, sur l'environnement.
La proposition de loi prévoit d'interdire de vendre ces produits, mais aussi de les importer et de les stocker en France. Le député à l'origine du texte, Philippe Bollot, réclame par ailleurs plus de cohérence par rapport aux règles européennes.
L'Europe vise à limiter l'utilisation des microplastiques dans les produits du quotidien pour préserver les consommateurs. Je pense aux produits cosmétiques avec les exfoliants et je pense aux produits ménagers. Et par ailleurs, l'Europe aussi contraint les industriels qui ont besoin d'utiliser des microplastiques pour leur production d'objets en plastique. Donc c'est complètement incohérent d'avoir des mesures de protection au niveau européen et puis de l'autre côté, de permettre de vendre à des particuliers ces microplastiques.
Cette proposition de loi doit maintenant passer en commission avant d'être débattue dans l'hémicycle. Le député Philippe Bollot espère une adoption avant Noël de l'année prochaine, en 2026.
Louise Buyen, c'est parti pour 3 ou 4 matchs par jour au Maroc, la Coupe d'Afrique des Nations, Mali, Zimbabwe à 15h, puis Afrique du Sud, Angola ce soir. L'Égypte, finaliste il y a 4 ans, entre dans la compétition. En ouverture hier soir, les Marocains se sont imposés 2-0 face aux Comores. De la CAN au Maroc, à la piste de slalom d'Altabadia en Italie, 8e manche de la Coupe du Monde de ski alpin. Et c'est un Français qui est en tête ce midi à l'issue de la première manche. Bonjour Guillaume Batin.
Bonjour Kevin.
Clément Noël, le champion olympique en titre du slalom, a été le plus rapide.
53 secondes et 30 centièmes, c'est le meilleur temps de la première manche signé, c'est vrai, Clément Noël, champion olympique à Pékin. Il n'est monté qu'une seule fois sur le podium cette saison, c'était sur la deuxième marche en ouverture à Lévi en Finlande. Pour y retourner, il va encore falloir écraser la concurrence qui est très proche. Ils sont 12 coureurs, 12 skieurs dans la même seconde, y compris Timon Hogan, le Norvégien, 5e de la première manche. Il était à 51 centièmes, c'est lui le leader de la Coupe du Monde de slalom, y compris aussi un autre Français, Paco Rassa, qui a brillé il y a un mois à Görgl en Autriche, 74 centièmes de retard. Et puis il y en a deux autres aussi qualifiés qui sont dans les 30, Steven Amier, 14e à 1 seconde 16, pourquoi pas le podium enfin pour lui qui collectionne les 4e places, et Victor Mufajandé, 15e à 1 seconde 21.
Merci Guillaume Batin en direct d'Altabadia. Enfin, si vous avez la chance d'être en vacances, peut-être prenez-vous le temps de vous balader sur les marchés de Noël, ou bien que vous soyez croyant ou non, dans les églises et dans les villages où la tradition catholique de la crèche est toujours forte, petite, moyenne ou grande, vivante même parfois avec des acteurs et de vrais animaux. La crèche vivante est née il y a 8 siècles en Italie, à Greccio, 1500 habitants au nord de Rome, désormais au lieu spirituel et touristique. Reportage Bruno Duvic.
En décembre, le village accroché aux Apennins voit les touristes affluer. On trouve des crèches sur le moindre muret de pierre. Gabriella est vendeuse sur le marché de Noël.
Celle-ci est très intime, j'ai placé les personnages dans une mangeoire à oiseaux en céramique.
Dans la montagne, un sanctuaire franciscain bâti sur une grotte où Saint François s'est arrêté en 1223, selon les chroniqueurs. Le père Marcillas, d'origine mexicaine, est venu s'y recueillir.
Il a réuni les villageois et les villageois, ils sont recréés la scène. Ils sont trouvés même un âne, un bœuf, un couple et un bébé. Ils étaient très émus de voir d'une manière directe ce qui était sans doute la scène de la naissance du Christ.
La grotte est devenue une chapelle où Jean-Paul II et François sont passés. Dans le village, jumelé avec Bethléem, le musée des crèches du monde entier est un symbole de paix. Alessio Valloni, l'adjoint au maire.
Pour tous ceux qui visitent le musée de Greccio, 1 euro sur le prix du billet est utilisé pour financer un projet d'aide aux personnes les plus en difficulté à Bethléem.
La crèche de Greccio est-elle la toute première ? En tout cas, pour les historiens, elle témoigne du rôle clé des franciscains dans la diffusion de cette tradition. La preuve ici, en 2025.
Visite donc de la crèche de Greccio avec Bruno Duvic, 13h27 sur France Inter. Dans un instant, la météo avec Elena Morna, avant de retrouver nos invités à 13h30. Spécialiste de la myopie, parce que ce trouble de la vue ne cesse de gagner du terrain partout dans le monde. Et j'attends vos questions via l'application de France Inter ou au 01 45 24 7000. À 13h45, toute la semaine sur les traces d'Ousmane Dembélé, le feuilleton d'Emma Sarango sur le joueur du PSG, Ballon d'Or 2025. série de reportages primée il y a quelques jours au Micro d'Or. Du football encore dans votre chronique, Cécilia Arbona. C'est la France, bonjour.
Bonjour Kevin.
Lui rêve sans doute de devenir Ballon d'Or. Vous nous parlez d'un jeune joueur très prometteur du côté de Laval.
Il s'appelle Ethan Claverolle, il a 19 ans, il a signé chez les professionnels cet été et à mi-saison, il est déjà le meilleur buteur du club, le chouchou des supporters de cette équipe de Ligue 2, toujours en course en Coupe de France.
On verra ça tout à l'heure, Cécilia. Et dans C'est une chanson, Frédéric Pommier passe la semaine avec Charles Aznavour et ses admirateurs, aujourd'hui Danny Briand.
Je crois que c'est sa voix qui est très spéciale, un certain sens du rythme, et puis il n'est pas comme les autres. C'est un auteur, c'est un poète, c'est sa musique qui est très cosmopolite, qui est un mélange d'Europe de l'Est, de musique tzigane, de musique russe. Ça me parlait beaucoup, ça me remuait beaucoup.
Vous découvrirez donc le choix de Danny Briand juste avant 14h.
La météo avec les poulets de Loué. Régalez-vous d'un savoureux poulet fermier de Loué, élevé en liberté. Loué, libre par nature.
Et bonjour Elena Morna.
Bonjour Kevin.
Un météo de plus en plus instable dans le sud-est.
On est toujours sous l'influence d'une goutte froide qui remonte d'Espagne et arrose copieusement les régions méditerranéennes. Résultat, 5 départements sont en vigilance crue. Pluie, inondation, le Var, l'Hérault, la Lozère, l'Aveyron, le Tarn. L'Aveyron, le Tarn, où vous avez en plus une vigilance neige-verglas, les flocons tombent à très basse altitude. C'est pas fini puisqu'on ajoute du vent et des orages entre la Corse et le littoral méditerranéen. C'est pas fini encore avec la neige qui tombe à moyenne altitude sur les Alpes du Sud et les Pyrénées-Orientales. Ailleurs, c'est simple, nuageux et de la bruine sur la façade atlantique, nuageux tout court. Ailleurs, allez, quelques éclaircies sur le nord-est.
C'est toujours pas fini avec les températures qui continuent de baisser.
C'est bien de préciser qu'elles commencent à baisser.
Qui commencent à baisser, pardon.
Parce que Météo France annonce un froid saisissant pour Noël. Ben voilà. En attendant, il fera 2 à 17 degrés cet après-midi entre Aurillac et Ajaccio.
Merci Elena Morna pour la météo.
France Inter, le 13-14, Kevin Dufraîche.
Où est-ce que j'ai mis mes lunettes? Question qui agace quand on n'arrive pas à les retrouver et que nous sommes de plus en plus nombreux à nous poser. Parce que d'après les études, les projections, a rappelé cette semaine dans un article par le journal Le Monde, la moitié de la population mondiale pourrait être myope en 2050. Alors on va essayer de comprendre pourquoi et demander à nos invités s'il y a des solutions. D'abord, docteur Esther Blumenohana, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chirurgienne ophtalmologue à l'hôpital national des 15-20, spécialisé en ophtalmologie. Mathias Goldin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au CNRS auprès de l'Institut de la Vision. Et au téléphone tout à l'heure, nous aurons une autre médecin, docteur Élise Philippakis, directrice adjointe de l'Institut français de la myopie. Si vous êtes concerné, si vous vous posez des questions sur ce sujet, chers auditeurs, 01 45 20 24 7000 au téléphone et l'application Radio France, rubrique Réagir. Avant toute chose, Esther Blumenohana, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est un œil myope?
Alors, un œil myope, c'est un œil qui est plus grand que la norme, en règle. En fait, à l'intérieur de l'œil, on a deux lentilles qui nous permettent de focaliser l'image sur la rétine. Il y a tout d'abord la cornée, qui est donc la cupule transparente qui permet aux rayons lumineux de rentrer dans l'œil. Et le cristallin. La myopie, en fait, se définit par un allongement de la longueur axiale, en fait, de la longueur de l'œil, et qui fait que, en fait, ce qu'on regarde au loin est projeté en avant de la rétine.
Ce qui fait que on voit trouble de loin et on y voit bien de près. Mathias Goldin, je disais tout à l'heure dans les titres de ce 13-14 que contrairement à la grippe, ce n'est pas contagieux la myopie, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a bien une épidémie de myopie en France et dans le monde ?
Oui, tout à fait. Comme vous avez bien mentionné, à moitié des siècles, il y aura 11 sur 2 personnes et qui auront de la myopie. Et c'est dû à le changement de nos habitudes. Depuis la révolution industrielle et la scolarisation, les enfants passent pas suffisamment de temps dehors et donc ils sont pas exposés à la lumière naturelle. Et quand ils sont pas dehors, ils sont à l'intérieur et ils utilisent beaucoup la vision de près.
Dans le monde, on dit à peu près une personne sur deux myope d'ici 25 ans. En France, aujourd'hui, on est à combien? Un tiers de Français qui sont touchés par la myopie, c'est ça?
Oui, c'est un tiers.
Fait, ouais.
C'est donc un enjeu de santé publique majeur, en fait, avec ce que vous nous dites. Vous dites que nos habitudes ont changé, Mathias Goldin. Donc, c'est un enjeu de santé publique qu'il faut prendre en compte et sur lequel il faut agir aujourd'hui.
Oui, c'est que le problème, il y aura 5 000 millions de personnes qui auront la myopie, mais 10% de ces populations auront de la myopie forte. Et ça, il y a un risque accru des problèmes comme les décollements de la rétine, les glaucomes, les maculopathies liées à la myopie.
Alors justement, docteur Esther Blumenohana, dites-nous, la myopie forte, à quoi ça correspond et quelles sont les conséquences si on ne traite pas correctement la myopie?
Alors la myopie, elle est définie par la puissance des verres correcteurs qu'on est amené à porter. On parle de myopie forte au-delà de moins 6 dioptries, ou si on fait une analogie par rapport à la longueur axiale, c'est un œil qui est plus long que 2,6 cm, donc 26 mm. Et du coup, le problème de la myopie, c'est pas un problème en soi, c'est un défaut fonctionnel quand il est modéré et qui nécessite une correction en lunettes, en lentilles ou éventuellement une correction chirurgicale si on le souhaite après un certain âge. Pour ce qui est de la myopie forte, effectivement, le vrai problème, c'est les complications qui sont associées. L'œil est agrandi, donc il y a un étirement de toutes les structures à l'intérieur de l'œil et ce sont des yeux qui sont plus susceptibles de développer des décollements de rétine, mais pas que, des cataractes plus précoces, des glaucomes qui sont généralement plus graves, plus difficiles à prendre en considération, des problèmes de néovascularisation. En fait, on connaît la DMLA, on connaît moins la dégénérescence myopique, en fait, maculaire myopique, qui peut entraver sérieusement la vision fine des choses et des patients qui peuvent avoir des problèmes de vision précise.
Et ces cas-là, ces pathologies-là, vous notez une augmentation là aussi, tout comme il y a plus de myopes de manière générale ?
Eh ben si il y a plus de myopes, il y a plus de myopie forte et donc mathématiquement on va observer, c'est l'enjeu, c'est de limiter la survenue de myopie forte pour éviter les complications induites par cette myopie forte.
Alors on va évidemment parler des solutions avec vous, mais avant je voudrais vous faire rebondir à ce que disait Mathias Goldin à l'instant. Docteur, les changements d'habitude, la façon dont on vit aujourd'hui, tout ça a fait que le nombre de myopes s'est multiplié. Je vous pose la question tout de suite parce que tout le monde, à mon avis, se pose la question. Est-ce que les écrans sont responsables de l'augmentation du nombre de myopes?
Mais oui, bien sûr.
Alors, c'est tout ce qui se passe de près, c'est ça.
Tout à fait.
Plus on est près de nos écrans, de notre travail.
Quand j'avais commencé l'ophtalmologie, on m'avait expliqué que l'espèce humaine avait été conçue pour chasser, pour regarder au loin en vrai. Et puis notre environnement s'est radicalement modifié, notamment ces dernières années, où plus un enfant, on ne voit plus d'enfants sans écran, sans téléphone. Même la lecture se fait souvent au travers d'une tablette. Et on passe de moins en moins de temps en extérieur.
Mais est-ce que ça veut dire qu'on est condamné finalement dans nos sociétés occidentales, du moins en tout cas avec la façon dont on travaille et dont on évolue, nos loisirs, est-ce qu'on est condamné à plus de myopie?
Ben, j'ai l'impression quand même que c'est effectivement quelque chose qui est écrit étant donné nos conditions de vie qui évoluent. Maintenant, il y a des moyens de prévention qui font la preuve, qui ont démontré leur efficacité. Et après, c'est une question d'investissement et de volonté de les mettre en œuvre auprès de nos enfants.
Mathias Goldin, vous évoquiez le temps passé dehors. Ça, c'est un vrai problème. En fait, les enfants aujourd'hui passent moins de temps dehors et ça a une incidence sur le nombre de cas de myopie. Pourquoi c'est important de passer du temps dehors?
C'est important parce que on ne sait pas exactement la raison précise, mais la myopie, c'est un problème de croissance. Et quand on passe le temps à l'extérieur, on est exposé à la lumière naturelle et la lumière naturelle va nous synchroniser avec notre horloge biologique naturelle qui va nous dire quand on a du sommeil, quand on doit se réveiller, et si on dérègle le sommeil, on a un problème de croissance. Et la myopie, c'est tout à fait un problème de croissance. L'œil est trop allongé. Mais il y a des manières de prévenir maintenant que nous connaissons.
Eh bien, on va y revenir dans un instant. D'abord, je voudrais prendre Daniel au téléphone. Bonjour, Daniel. Daniel, est-ce que... Non, Daniel n'est pas avec nous. On va essayer de le rattraper tout à l'heure. Daniel, il est ingénieur opticien. Il voulait réagir à l'appellation de maladie pour la myopie. On verra si on arrive à le récupérer. Mais continuons là-dessus, Mathias Goldin. Justement, vous dites il y a des solutions. Lesquelles, par exemple?
Oui, comme les verres freinateurs. Et d'abord, je dois mentionner qu'il y a un acteur clé dans le sujet de la myopie, et c'est la rétine. La rétine, c'est tout ce qu'il y a, c'est un tissu qui est au fond de l'œil. Mm-hmm. Et il y a, c'est pas comme un film photographique, c'est tout un réseau de neurones qui vont analyser l'image qui tombe sur la rétine, ils vont lui dire à l'œil et si l'image est nette. Et si l'image n'est pas nette, il va lui dire il faut continuer de grandir. Donc, ce que nous étudions, c'est comment ces neurones peuvent nous dire où se situe l'image et pour les tromper. Donc, avec ces nouvelles verres freinateurs qui sont sortis au marché, et nous pouvons faire une sorte de dire à la rétine qu'il faut s'arrêter de grandir.
Eh bien, justement, parlons-en avec notre troisième invité, Dr Élise Philippakis. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice adjointe de l'Institut français de myopie. Vous êtes vous aussi médecin. Justement, pour parler des solutions, des innovations, les verres freinateurs dont parlait Mathias Goldin pour les enfants. Si j'ai tout bien révisé, ils sont remboursés depuis peu par la Sécurité sociale. Est-ce que c'est une bonne méthode? Un bon traitement?
Alors, c'est les verres freinateurs. Il y a trois fabricants de verres qui proposent maintenant cette technologie. Les verres freinateurs consistent donc à avoir une zone de la vision qui va inverser ce signal que décrivait Mathias, qui va dire à l'œil arrête de t'allonger. Mm-hmm. Donc, c'est pas une action au niveau du centre de la vision, c'est une action au niveau de la périphérie de la vision. Et donc, ces verres freinateurs ont montré une très bonne efficacité. Ça freine la myopie dans à peu près 60% des cas, ce qui est un enjeu majeur, parce qu'on sait que dès lors qu'on devient myope, il n'y a pas vraiment de retour en arrière.
Et c'est ce que j'allais vous demander.
De ralentir au maximum.
En fait, on ne guérit pas de la myopie.
Non. On ne guérit pas de la myopie, et c'est un message très important, parce que si un des versants de ce problème de myopie en France est en effet la prévention chez nos enfants par des méthodes environnementales, par des verres freinateurs, voire par même l'instillation de gouttes d'atropine diluées, qui vont agir sur encore d'autres mécanismes d'allongement de l'œil. L'autre enjeu, c'est les jeunes adultes qui, eux, vont se faire peut-être opérer de chirurgie réfractive pour enlever le problème optique, hein, le fait d'avoir pas envie de porter des lunettes ou des lentilles de contact. Mais l'œil, lui, reste myope. Donc la maladie myopique continue à être présente. On ne guérit pas la myopie, ni en freinant, ni en opérant la myopie.
Et ça, c'est important, effectivement, de le savoir quand on est touché. Esther Blumenohana, vous vouliez rajouter quelque chose sur les traitements?
On parle souvent de prise en charge multimodale, et c'est vrai que ce ne sont pas des moyens exclusifs les uns des autres, c'est-à-dire qu'on peut porter
des
verres.
On peut cumuler.
Voilà, exactement.
Choses.
Les gouttes dont parlait Élise sont importantes, et ne pas négliger non plus les recommandations environnementales. Et il existe également des lentilles qui peuvent limiter la progression de la myopie. Des lentilles qu'on porte la nuit, c'est l'orthokératologie, mais également des lentilles qu'on peut porter le jour et qui sont basées un peu sur les mêmes, philosophie d'essayer de limiter en fait le flou en périphérie et de ramener l'image sur la rétine pour limiter cette évolution, cet agrandissement du globe.
Sur l'aspect global d'enjeux de santé publique, Élise Philippakis, c'est donc un peu ce que rappelait à l'instant Esther Blumenohana, c'est-à-dire il faut penser la prévention et les traitements tout en même temps finalement.
Bah en fait, oui, il y a, comme je vous disais, il y a trois axes. Il y a la prévention chez les enfants, il y a le traitement, les solutions optiques pour quand même permettre aux gens de voir correctement.
Bien sûr.
Avec une qualité de vie satisfaisante, hein, parce que c'est un peu stigmatisant, les verres très épais, dès lors qu'on rentre dans la myopie forte. Et puis après, il y a tout le versant des complications, où là, en effet, on a des patients qui viennent avec des vrais problèmes compliqués, ou parfois faire des belles images, comprendre exactement quel est leur diagnostic est compliqué. Et ces patients-là, ils ont besoin quand même de recevoir des soins assez spécialisés, assez experts, et de pouvoir idéalement faire ça chez le même ophtalmo. Et aujourd'hui, C'est vrai que c'est pas toujours possible parce qu'on a tous des spécialités un petit peu différentes et c'est des patients qui, même dans des cas très extrêmes, hein, vont présenter des complications sécitantes, potentiellement sécitantes, jeunes, avec des néovaisseaux, comme le disait Estelle.
La myopie peut aller jusqu'à rendre aveugle, c'est ça que vous nous dites ?
De perdre la vision centrale.
La myopie peut faire perdre la vision centrale par ses complications spécifiques, mais comme les myopes ont un risque de développer un glaucome beaucoup plus élevé, souvent sous-diagnostiqué, il y a un risque de cécité lié à cette complication spécifique.
Il faut donc mettre des moyens, Alice Philippakis, dans les diagnostics notamment ?
Alors, des mieux machines dépister. Qui permettent de faire le diagnostic, elles existent, mais parfois, elles ne sont pas accessibles à tous. Et surtout, vraiment mieux dépister, suivre et faire des examens, parfois en effet plus précis, pour trouver les complications et donner les solutions thérapeutiques adaptées.
On est Esther Blumenohana, allez-y.
Oui, parce qu'on a les moyens à l'heure actuelle de mesurer la croissance de l'œil et de mesurer l'évolution de la myopie au fur et à mesure du temps qui passe chez les enfants. Mm-hmm. Et du coup, s'alarmer et mettre en place dès qu'on juge qu'il y a une évolution trop importante et plus l'enfant est jeune et plus on va mettre ces mesures en place plus rapidement. Et d'où l'importance effectivement d'avoir un suivi longitudinal de ce problème.
Mathias Goldin, est-ce qu'il y a une prochaine étape, j'allais dire, dans l'innovation, dans la recherche contre la myopie avec tout ce qu'on vient d'évoquer là ? Est-ce qu'il y a de nouvelles innovations à venir ?
Oui, notamment nous travaillons avec un projet qui s'appelle Premium avec Y, qui c'est sur la prise en charge et prévention de l'épidémie de la myopie par l'optique médicale. Et c'est un projet financé par BPI France, la Banque publique d'investissement, avec 4 partenaires publics.
Alors expliquez-nous en quoi ça consiste exactement ?
Et ça consiste personnalisé et ces verres de freination, parce que chaque œil de chaque enfant, c'est différent.
Donc les verres de freination qui permettent de voilà
qui
de permettent ralentir,
l'avancement de la myopie et l'allongement de l'œil pour tromper vraiment chaque rétine de chaque enfant, pour que la rétine dise vous vous arrêtez, vous allongez plus, c'est fini.
Et un dernier mot pour parler des autres pays dans le monde. J'ai lu aussi que, donc avec ce que vous évoquiez sur l'extérieur, finalement, les pays scandinaves, par exemple, ou l'Australie, il y a beaucoup moins de myopes qu'en France ou ailleurs en Europe, dans les pays occidentaux.
Et ça dépend de la façon dont la culture fait beaucoup plus d'activités dans l'extérieur. Donc, par exemple, en Suède aussi, qu'ils ont une culture de passer beaucoup de temps à l'extérieur, ils sont en taux de myopie de 3 fois moins qu'en France.
Donc, il y a beaucoup, beaucoup de vertus à passer du temps en extérieur. Maintenant, on saura aussi que ça aide à retarder le moment où on portera des lunettes. Merci beaucoup Mathias Goldin, Esther Blumenohana et Elise Philippakis d'avoir été les invités du 13-14 aujourd'hui. Notre feuilleton.
Merci.
Une semaine dans leur vie sur les traces d'Ousmane Dembélé. Nous avons choisi de rediffuser cette semaine une série de reportages signée Emma Sarango du service des sports de Radio France, récompensée dans la catégorie radio. C'était la semaine dernière au Micro d'Or, la cérémonie de l'Union des journalistes de sport en France. Un feuilleton consacré au parcours du roi du football mondial cette année, Ousmane Dembélé, l'attaquant du Paris Saint-Germain, Ballon d'Or. Et pour le petit Ousmane, né en 1997, tout a commencé dans le quartier de la Madeleine, à Évreux, en Normandie, à 100 km de Paris.
Là, au dernier étage, c'est ici que Ousmane il habitait, juste à côté du carreau rouge. Et moi, j'habitais au premier étage. Et c'est ici qu'on s'est rencontrés à l'âge de 5 ans. C'est une barre d'immeuble, c'est ce fameux mur où Ousmane avait l'habitude de tirer du pied droit et du pied gauche. Alors, moi, je suis Mustapha Diatta. Et je suis l'ami d'enfance à Ousmane. J'ai grandi avec lui et depuis petit, on s'est pas lâché. Maintenant, je suis dans son entourage. Et je suis Ousmane à travers ses aventures exceptionnelles. J'ai cette anecdote où il pleut et moi, de ma fenêtre de chez moi, je vois Ousmane sous des torrents tirés du pied gauche et du pied droit contre ce mur. Et je comprends très rapidement que c'est pas un simple jeu, le football, et qu'il veut vraiment faire son métier. Nous, on jouait au football. Et lui, il faisait de la magie. C'était différent. On faisait pas la même chose avec un ballon. C'était pas pareil. Là, c'était très très clair pour lui. Hein. Il allait jouer au football. Il allait jouer au football, je ne l'ai jamais entendu dire qu'il voulait travailler pour la NASA ou pas du tout. Lui, c'est le football, un point, c'est tout. Il a été élevé par sa maman, qui est une femme par rapport, comme toutes les mamans dans les quartiers, par rapport aux sorties, etc. Faire en sorte que, qu'il ne soit pas dehors jusqu'à très très tard le soir, par exemple. C'est l'aîné d'une fratrie, ils sont quatre, cinq avec Ousmane. Elle a beaucoup laissé Ousmane, cette partie-là à Ousmane. Elle savait que c'était son plaisir, elle l'a laissé avec son plaisir. Chez les Dembélé, ils sont pas mal, hein. Ils sont pas mal à jouer au football, à avoir tenté de jouer au haut niveau en tout cas. Et,
quand vous dites chez les Dembélé, chez frères et sœurs?
Oui, chez ses oncles, etc. Ils étaient doués, ils avaient quelque chose pour le football.
Dans la vie, ça va vite, comme Ousmane Dembélé.
Alors, je connais Ousmane depuis qu'il est tout petit. Je pense qu'il devait avoir 5-6 ans, je pense. Younes Oubrahim, voilà, je suis éducateur au club. Moi, je suis un petit peu le grand frère parmi tous les grands frères du quartier. Et puis, lui, c'était le petit qui jouait dehors pendant que nous, on était là. Et il se trimbalait systématiquement avec son ballon de foot. C'est-à-dire que même quand, c'est des souvenirs, hein, quand sa mère l'envoyait faire des petites courses chez l'épicier du coin de la rue, il n'y allait pas sans son ballon. Donc, il avait tout le temps son petit ballon à dribbler les arbres, à dribbler les bancs, à dribbler tout ce qu'il pouvait utiliser comme obstacle. Voilà, c'était un dribble. Et puis, il avait déjà des dribbles, la spéciale d'Embouz, les crochets, les feintes de frappe. Il l'avait déjà depuis tout petit, donc il a pu le perfaire avec le temps. Et quand il était avec ses amis, tout le temps à chambrer, à rigoler. Et il avait un peu la tête dans les nuages, un peu rêveur. Et par contre, quand il jouait, c'était une autre personne, très compétiteur. Il pouvait être caractériel. C'est ce que lui nous a montré depuis tout petit. Et donc, quand on le voit aujourd'hui, on n'est pas étonné. Il n'y a pas grand-chose qui a changé.
Voilà pour ce premier épisode sur les traces d'Ousmane Dembélé, reportage d'Emma Sarango. Toute cette série de reportages est à retrouver sur franceinter.fr.
France Inter. Le 13-14.
Et du football encore dans ce 13-14, dans C'est la France avec vous, Cécilia Arbona, aujourd'hui, parce que vous nous présentez une jeune pousse du stade Lavallois, meilleur buteur et chouchou des supporters.
À 19 ans, Ethan Claverolle est ce qu'on appelle un bébé tango, surnom des footballeurs de Laval. Il a tapé ses premiers ballons à l'âge de 5 ans dans son village de Courbevoie. Son père, Michael, se souvient. Très vite, on a vu qu'Ethan avait des dispositions. On était obligé de le pousser en dehors du terrain pour laisser un peu jouer ses petits camarades. Lui n'était jamais fatigué. Un dirigeant nous a alors conseillé de le mettre dans un club plus important et on l'a inscrit dans la commune voisine, toujours à la campagne. Et puis un jour, on a reçu un courrier du stade Lavallois qui demandait à voir notre fils.
Et donc Ethan intègre les U9, on appelait ça les poussins à l'époque, les U9 de Laval, et il continue l'école.
Oui, il passe son brevet des collèges, s'oriente vers un CAP mécanique espace vert. J'aime bien entretenir les stades ou les golfs, raconte-t-il. Mes parents veulent que je garde les pieds sur terre, que j'ai un métier, si tout s'arrête. Maintenant, c'est moi qui passe la tondeuse dans le jardin.
Et cet été, sa vie a pris une nouvelle dimension.
Il a signé chez les pros à Laval, après avoir fait des étincelles dans l'équipe réserve dirigée par Sébastien Desmazeaux. Ethan me rappelle les footballeurs romantiques des années 80, dit-il. Il y a chez lui une fougue, une authenticité. Son insouciance fait sa force. Il est proche des gens et ils le ressentent. Ethan Claverolle est surpris de voir dans les tribunes des maillots floqués de son numéro 20. Ça fait bizarre d'être applaudi, d'entendre le public scander notre nom de famille. Mes parents et mes sœurs, on en a tous des frissons. Les supporters de la ville avaient besoin d'une figure à suivre et Ethan incarne cette promesse, estime Olivier Frappoli, l'entraîneur de l'équipe première de Laval. C'est un garçon attachant, rafraîchissant, avec une forme de naïveté. Après son premier but face à Saint-Étienne, il s'est mis à zigzaguer dans tous les sens. Il s'est allongé sur le terrain, dépassé par ses émotions. En même temps, poursuit le coach, Ethan peut afficher parfois une assurance froide, une sorte de détachement. Mais le plus impressionnant, ce sont ses qualités physiques. Il est capable de courses à haute intensité.
Et cette puissance, il la met à la disposition du club. club de son enfance. Donc.
Il donne des coups de main à l'équipe senior de 3e district à Courbevoie. Il délivre des conseils aux papas, aux joueurs pro, aux joueurs amateurs du dimanche. Et d'ailleurs, il a décroché un 2e CAP en métier du sport, toujours pour assurer ses arrières, ce qui ne l'empêche pas quand même de rêver, d'avoir de hautes ambitions en tête, évoluer en Ligue 1 et pourquoi pas un jour fouler la pelouse du Camp Nou. Et on l'aura compris, Kevin, pas pour passer la tondeuse, mais pour porter les couleurs du FC Barcelone.
C'est tout ce qu'on lui souhaite. Bébé Tango deviendra grand, bien sûr. Cécilia Arbona pour C'est la France. Merci beaucoup, Cécilia. 13h53 sur France Inter. C'est une chanson à présent pour vous accompagner en cette semaine des fêtes. Frédéric Pommier vous propose une semaine spéciale Charles Aznavour. Aujourd'hui, nous réécoutons son entretien avec le chanteur Danny Briand, qui avait choisi d'évoquer un titre sorti en 1958 pour faire une jam. C'est sa chanson préférée, une chanson qu'il a d'ailleurs lui-même reprise 40 ans après avoir découvert Aznavour sur scène.
Ma mère était fan et a pris des places pour aller voir Charles à l'Olympia. Et donc là, j'ai vu Charles à 11 ans, ce que mon père pouvait pas, il était bloqué dans un train. Et c'est mon premier concert et je m'en suis jamais remis.
C'est votre père qui devait l'accompagner.
C'est mon père qui devait l'accompagner, oui, oui. Parce que Aznavour, c'est plutôt de la musique pour les adultes quand même. Les enfants ne sont pas très concernés encore. Mais j'ai découvert là une façon de chanter, des textes, un charisme, des lumières. Enfin bon, j'étais subjugué, je ne savais pas que je deviendrais chanteur, mais en tout cas, ça m'a remué énormément.
Est-ce que ça veut dire que Aznavour, vous avez baigné dedans parce que votre mère était fan? Et que c'est à partir du moment où vous l'avez vu que vous êtes vraiment devenu fan, vous aussi?
Oui, je l'ai vu, il a touché quelque chose dans mon cœur. Je crois que c'est sa voix qui est très spéciale. Un certain sens du rythme, et puis il n'est pas comme les autres. C'est un chanteur de variété, mais qui n'est pas comme les autres. C'est un auteur, c'est un poète. C'est sa musique qui est très cosmopolite, qui est un mélange d'Europe de l'Est, de musique tzigane, de musique russe. Ça me parlait beaucoup, ça me remuait beaucoup. Et puis je vous dis, un sens du rythme très, très important, dont on n'a pas toujours conscience, parce que si on connaît le Aznavour des années 70, il s'est plutôt illustré dans les ballades. Mais il faut savoir que le jeune Aznavour, c'est plutôt un chanteur de rythme, comme Becco, comme Henri Salvador, comme Michel Legrand. Et ça, je le découvrais à l'adolescence, le swing.
Moi, certains soirs, quand je m'ennuie, je connais un coin dans Paris où l'on se rencontre entre amis pour faire une jam. Chacun prenant son instrument, qu'il soit à cordes ou bien à vent, laisse parler son tempérament pour faire une jam. Comme je ne suis pas musicien, mais que vraiment j'aime ça, je rythme en frappant dans mes mains et chante Ibib Nuliabab Nubaka. Quand on est dans cette ambiance, les mots n'ont aucune importance. Le principal, c'est que ça balance pour faire une jam.
Ça, ça a été la Madeleine de Proust ou le déclic ou le détonateur de mon goût pour la chanson. Et une certaine chanson, c'est-à-dire une chanson basée sur le rythme, sur le swing, étant ado dans les années 80, évidemment, ça avait disparu. Mais tel un archéologue de la musique, je l'ai redécouvert. Je me suis dit, c'est incroyable qu'on puisse faire du swing en français. Parce que normalement, le swing, c'est une musique américaine. Mais eux, les gens qui ont vécu l'après-guerre, en fait, ils l'ont adapté en français. Ils ont réussi à le faire. Pas tous, mais je vous dis, les deux principaux, je trouve, qui l'ont vraiment réussi, c'est Becco et Aznavour.
Et alors, quand vous découvrez cette chanson-là, elle provoque à nouveau quelque chose?
Ah oui, oui, parce qu'il y a la vie dans cette chanson, il y a une âme. Je crois que si on veut connaître l'atmosphère d'une cave de jazz dans les années 50, il faut écouter cette chanson, tout y est.
Est-ce que cette chanson-là, c'est une des premières chansons d'Aznavour que vous avez vous-même chantée?
Je l'ai chantée donc quelques temps après, je suis arrivé à chanter dans les cabarets, notamment dans un club qui s'appelle Les Trois Maillets. Et évidemment, j'avais un répertoire très swing, je m'étais spécialisé là-dedans. Je voulais faire ce métier dans le swing, même si je savais que c'était pas tellement la musique à la mode, mais je m'en foutais, c'était ma passion. Et il y avait cette chanson-là pour faire un jam.
En bras de chemise, parce qu'on a chaud, on se donne à fond les yeux, mi-clocard. Plus ça chauffe et mieux ça vaut pour faire une jam.
Vous l'avez rencontré après, Charles Aznavour.
Et après, je l'ai croisé quand j'ai eu 30 ans au Festival de Montreux, encore un festival de jazz. Et là, on est devenus un peu proches.
Et je crois qu'un jour, en venant vous voir en loge, il vous a dit, là, ça y est, t'es devenu chanteur.
Exactement. C'est vrai que ça, ça a été mon diplôme. Parce que vous savez, dans ce métier-là, il n'y a pas d'université. Le seul repère qu'on puisse avoir, ce sont les maîtres qui l'ont fait avant vous. C'est très important d'être connu par ses pairs. Et moi, je dis, c'est une forme de diplôme. Donc, c'est vrai qu'à l'âge de 40 ans, il est venu me voir. J'étais au Palais des Congrès. D'ailleurs, c'était sa salle préférée. Et il est venu me voir en me disant, je crois que ça y est, vous êtes un vrai chanteur. D'ailleurs, j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Avant, j'avais l'impression que j'étais chanteur aussi. Mais pour lui, c'était, je pense, une sorte de maturité, ou alors j'exprimais des émotions peut-être plus subtiles ou nuancées que dans mes premières chansons, où il s'agissait surtout de rythme et de joie de vivre. Il aimait bien les choses assez profondes.
La batterie roule, la basse craque, le piano chante, les cuivres attaquent, de toutes parts les notes claquent pour faire une jam. Quand on a le jazz dans le sang et jusqu'au bout des doigts, et que l'on est pris 100% chant.
Et après, d'ailleurs, pour faire une jam, je l'ai chanté donc pour ses 80 ans à l'Opéra de Paris, parce que c'était vraiment la chanson fondatrice. Il n'y aurait pas eu pour faire une jam, je crois que je n'aurais pas fait ce métier.
Ah, c'est vrai?
Oui. Moi, c'est ma chanson préférée au monde.
Salut les gars, un de ces soirs pour faire.
Pour faire une jam, Charles Aznavour, c'était donc le choix et les confidences de Danny Briand au micro de Frédéric Pommier. Frédéric qu'on retrouvera demain et toute la semaine donc pour cette semaine consacrée à Charles Aznavour dans C'est une chanson, des chroniques que vous pouvez retrouver sur l'application de Radio France. À suivre sur Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan. Aujourd'hui, la loi Forni qui dépénalise l'homosexualité en 1982. Et puis à 14h10, la Terre au carré, Mathieu Vidard pour le chant des forêts, le nouveau film de Vincent Munier.